tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 9 octobre 2014, en direct du studio 13 ici à Washington, Morgane Guiriac et Bagassi Koura. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Bagassi, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, tir à l'arme lourde à Bangui en Centrafrique. On compte au moins 7 morts en 2 jours dans la capitale centrafricaine.
C'est à partir d'un cas de meurtre au niveau de Gobongo et la situation s'est embrasée. C'est dommage parce que il appartient au peuple centrafricain de prendre son destin en main.
Le chef d'état-major des ex-Séléka appelle à la démission de la présidente Catherine Samba Panza.
Le virus Ebola s'invite aux assemblées générales annuelles de la Banque mondiale et du FMI.
On a très rapidement déboursé 130 millions de dollars pour les trois pays concernés. On est prêt à faire plus.
Voilà la française Christine Lagarde, patronne du FMI.
Lutte contre les djihadistes de l'État islamique en Syrie. L'armée américaine affirme que Kobané est toujours aux mains des Kurdes.
Et dans nos magazines, nous reviendrons sur l'affaire des disparus du Beach au Congo-Brazzaville. La cour d'appel de Paris a confirmé la mise en examen du général congolais Norbert Dabira pour crime contre l'humanité. Et en fin d'émission, nos pages sport et musique pour l'instant. Journal.
En République centrafricaine, on compte au moins 7 morts et plusieurs blessés dans des violences hier et aujourd'hui à Bangui. Plusieurs quartiers de la capitale ont été secoués par des tirs à l'arme lourde et légère, provoquant la paralysie totale de la ville. Le Premier ministre Mahamat Kamoun dénonce un complot contre la transition. Le point avec Idriss Fall.
Une nouvelle journée de paralysie totale de Bangui. Toutes les artères de la ville ont été barricadées. Plusieurs commerces et banques sont restés fermés. Dans les 3e, 4e, 5e et 6e arrondissements, des tirs à l'arme lourde et légère ont été entendus et la Croix-Rouge centrafricaine parle d'au moins 7 morts et plusieurs blessés. Le Premier ministre Mahamat Kamoun a dénoncé un complot contre la transition.
C'est un grand complot qui est lancé contre le peuple centrafricain. Nous étions au courant de la préparation de ce complot depuis longtemps et tous les moyens ont été utilisés pour le mettre en exécution. C'est à partir d'un cas de meurtre au niveau de Gobongo et la situation s'est embrasée. C'est dommage parce que il appartient au peuple centrafricain de prendre son destin en main au moment où la vie a repris normalement à Bangui. Les activités économiques ont repris, les ennemis du peuple ne sont pas d'accord.
Après l'ultimatum des anti-Balaka, le général Joseph Zoundeko, chef d'état-major des ex-Séléka à Bambari, appelle lui aussi à la démission de la présidente Catherine Samba Panza. La plateforme des confessions religieuses demande à la présidente d'organiser une concertation pour trouver une sortie de crise.
Idriss Fall, l'inquiétude grandit sur les risques de propagation du virus Ebola dans le monde. La majorité des grands pays se sont dotés de dispositifs pour lutter contre l'épidémie, Lionel Gaïman.
L'Espagne compte 7 personnes hospitalisées, mais seul un cas est avéré. Un médecin hospitalisé a dénoncé le manque de protection suffisante alors qu'il assistait l'aide-soignante contaminée. Après le décès hier d'un patient au Texas, les États-Unis et le Canada ont annoncé le renforcement du contrôle à certains aéroports, notamment pour les passagers en provenance des 3 pays africains touchés par l'Ebola. L'Ebola s'est invité aux assemblées générales annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Christine Lagarde, patronne du FMI.
Sur Ebola, le FMI est complètement mobilisé. On a très rapidement déboursé 130 millions de dollars pour les 3 pays concernés. On est prêt à faire plus. Et pour une fois, le FMI dit qu'en la matière, faire plus de déficit fiscal est parfaitement acceptable.
De son côté, Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, estime qu'il faudra multiplier l'aide par 20 pour espérer enrayer la maladie. À cause de l'Ebola, au Libéria, les élections sénatoriales prévues pour le 14 octobre ont été reportées sine die.
Au lendemain de sa comparution pour crime contre l'humanité devant la Cour pénale internationale, Uhuru Kenyatta est rentré ce matin à Nairobi, accueilli par des milliers de partisans. Nicolas Pinault.
Oui, loin des juges de La Haye, le président kényan a reçu un accueil solennel avec tapis rouge au pied de l'avion et garde d'honneur. Des danseurs répétaient même en chœur « innocent ». Ce qui est important est notre unité. Travaillons ensemble pour améliorer le bien-être des Kenyans, a déclaré Uhuru Kenyatta. À 52 ans, le président kényan a été inculpé avant son élection à la tête du pays en mars 2013. La CPI l'accuse de crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007-2008 qui avaient fait un millier de morts et plus de 600 000 déplacés. Uhuru Kenyatta doit s'adresser en principe en fin de journée à la nation. Son vice-président William Ruto est lui aussi jugé par la CPI.
Et on reste à la Cour pénale internationale. Le procès de Bosco Ntaganda s'ouvrira le 2 juin 2015. Cet ancien chef de guerre est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre dans l'est de la RDC en 2002 et 2003. Les forces patriotiques pour la libération du Congo, milice à prédominance EMA, dont il était le chef militaire, combattait l'ethnie Lenda pour le contrôle de l'Ituri, région riche en ressources naturelles.
Notons aussi que l'ONU demande aux autorités de Kinshasa de mener des enquêtes approfondies sur les crimes commis par les ex-rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ONU accuse des membres du M23 d'avoir tué, violé ou torturé plusieurs centaines de personnes entre avril 2012 et novembre 2013.
Les combats entre islamistes et militaires continuent autour de l'aéroport de Benghazi en Libye. Selon l'AFP, au moins 17 personnes, dont 14 soldats, ont été tuées au cours des 3 derniers jours. Tel est le bilan annoncé par l'agence France-Presse.
Et le président nigérian Goodluck Jonathan dément avoir 100 millions de dollars. Le site internet richlifestyle.com lui attribue cette fortune en plaçant le président nigérian en 6e position sur la liste des chefs d'État africains les plus riches. Contestant ces chiffres, Goodluck Jonathan menace de les poursuivre en justice.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les milices kurdes gardent le contrôle de Kobani, selon l'armée américaine. Les Kurdes résistant toujours aux combattants des djihadistes de l'État islamique dans cette ville située à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Jean-Roger Billon.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme basé en Grande-Bretagne a fait savoir que l'État islamique ne contrôle plus qu'un tiers de Kobané. La coalition internationale dirigée par les États-Unis a intensifié les frappes aériennes dans et autour de la ville. Après le départ de la majorité de la population qui s'est réfugiée en Turquie, les combattants kurdes se sont mobilisés pour défendre la ville et ont demandé un soutien international. La Turquie dit ne pas pouvoir mener une opération terrestre par elle-même. Le Parlement turc a autorisé une action militaire en Syrie et en Irak, mais les forces turques n'ont pour le moment mené aucune action contre les islamistes. Ankara a déclaré aujourd'hui que les discussions sur la contribution de la Turquie sont en cours. Les autorités américaines et les dirigeants de l'OTAN se trouvent en Turquie.
Un attentat suicide portant la marque d'Al-Qaïda et visant des chiites a fait au moins 47 morts jeudi à Sanaa, la capitale du Yémen.
Le dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé fait état de 47 morts et 75 blessés. L'attaque commise par un kamikaze a visé un rassemblement de partisans des rebelles chiites sur la place Tahrir à Sanaa. Il est venu à un poste de contrôle des rebelles dans Sarwala et s'est fait exposer au moment où on le contrôlait, a déclaré à l'agence France-Presse un témoin. Un photographe de l'AFP présent sur place a décrit des scènes d'horreur, des corps déchiquetés et des civils pris de panique courant dans tous les sens. C'est l'attentat le plus meurtrier depuis mai 2012 à Sanaa, où une centaine de soldats avaient péri dans une attaque suicide attribuée à Al-Qaïda dans la péninsule arabique.
Merci Félix Yepasis Zembrou. Les leaders des manifestants à Hong Kong ont appelé leurs partisans à continuer à occuper les espaces publics après que le gouvernement a mis fin au pourparlers. Un leader étudiant a accusé ce jeudi le gouvernement d'être responsable de l'arrêt des négociations. Les manifestants exigent la démission du chef exécutif de Hong Kong désigné par Pékin. Ils demandent aussi que Pékin revienne sur sa décision de sélectionner les candidats à l'élection de Hong Kong de 2017.
Pas de funérailles nationales pour Bébé Doc. L'ancien dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier sera enterré samedi lors d'une cérémonie privée.
Un projet de loi visant à interdire la chasse aux chats dans la province allemande de Rhénanie du Nord-Westphalie a déclenché la colère des associations des chasseurs qui défendent ce droit pour des raisons écologiques. Depuis les années 30, les chasseurs ont le droit de tirer sur les chats à partir du moment où ils se trouvent à plus de 200 mètres de la dernière habitation, dans un champ par exemple, ou une lisière de forêt. Lors de la dernière saison de chasse, tenez-vous bien, environ 8000 chats ont été abattus. Voilà, c'est tout donc pour le journal. On passe à la partie magazine. Il est 14h40 ici à Washington, 18h40 en temps universel, direction la Centrafrique, où 7 personnes ont été tuées en 2 jours à Bangui, la capitale. Le chef d'état-major des ex-Séléka, basé donc à Bambari, appelle à la démission de la présidente Catherine Samba-Panza. Le général Joseph Zoundeko fait ainsi écho à un ultimatum lancé lundi par les anti-Balaka, exigeant eux aussi le départ de Mme Samba-Panza. Idriss Fall a joint à Bambari justement le général Joseph Zoundeko, chef d'état-major des ex-Séléka.
La présidente Catherine Samba-Panza exigeant le départ des forces républicaines ex-Séléka de Bambari par le fichement du ministre conseiller à la présidente Jean-Jacques L'état-major des forces républicaines, ex-Séléka, prend à témoin l'opinion internationale et nationale. La présidente et son gouvernement viennent encore une fois réunir le couteau dans la plaie en négligeant le départ des ex-Séléka de Bambari au fait de parfaire leur mission macabre d'épuration de la communauté musulmane.
Maintenant, vous demandez le départ de Catherine Samba-Panza.
Face à cette politique sournoise et devant l'incapacité notoire à rétablir la paix et la sécurité à Bangui et sur toute l'étendue du territoire, l'état-major des forces républicaines, ex-Séléka, demande purement et simplement la démission de la présidente de transition et de son gouvernement et la réélection d'un nouveau président en application des dispositions de la charte constitutionnelle.
Donc maintenant, vous rejoignez les anti-Balaka pour demander le départ de Catherine Samba-Panza.
Oui, nous rejoignons les anti-Balaka parce que ça fait 10 mois la présidente de transition et son gouvernement sont incapables de ramener la paix en Centrafrique.
Voilà, c'était le général Joseph Zoundeko, chef d'état-major des ex-Séléka à Bambari. Dans le même temps, la Croix-Rouge demande aux populations de lui permettre de poursuivre son travail. Hier, les agents de la Croix-Rouge centrafricaine ont été la cible de menaces ouvertes et directes dues à une mauvaise perception de ses activités de récupération des corps par une partie de la population qui a bloqué l'action des humanitaires. Camille Grosdidier a joint à Bangui Antoine Bao-Gobo de la société de la Croix-Rouge centrafricaine.
Vous savez, la Croix-Rouge intervient pour arriver aux souffrances des vulnérables et en toute neutralité, en toute impartialité. Ça, c'est les principes fondamentaux de la Croix-Rouge qui nous l'exige. Nous avions, depuis les hostilités, intervenu auprès de la population pour récupérer les blessés, pour récupérer les morts, les ensevelir dignement et également donner de l'eau, faire des latrines, distribuer des moustiquaires à toutes les parties composantes de la population. Malheureusement, il y a 72 heures, quelqu'un a été abattu. Nous avons récupéré le corps que nous avons emmené dans une morgue quand il y a eu des représailles de cette partie. Une petite partie franche de la population s'est levée pour nous accuser d'avoir réallumé les affrontements, les violences dans Bangui et nous empêche cette petite partie-là qui n'a pas bien compris, de faire notre travail de secourir la population. Et c'est pour cela que ça nous a indignés. Nous sommes bloqués en ce moment. Nous aurons souhaité qu'on nous laisse faire notre mission, c'est d'alléger les souffrances, de soigner les hôpitaux et ceux qui sont morts, de les remettre aux parents pour qu'ils soient enterrés dignement, selon les rites, selon la dignité qu'on doit donner ou disparaître.
Alors, vous rappelez en fait aux populations que la Croix-Rouge est à la fois impartiale et neutre.
La Croix-Rouge est neutre. La population le sait très bien. La Croix-Rouge a toujours été neutre.
Antoine Bao-Gobo du CICR à Bangui.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Oui, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jeudi la mise en examen du général congolais Norbert Dabira pour crime contre l'humanité dans l'enquête sur l'affaire des disparus du Biche. L'ancien inspecteur général des armées du Congo contestait sa mise en examen sur les disparitions en 1999 de 350 Congolais au Biche, principal port de Brazzaville sur le fleuve Congo. Pour une réaction, Nicolas Pinot a joint Maître Clémence Bechtart, de la Fédération internationale des droits de l'homme.
C'est une décision très importante puisqu'elle confirme la mise en examen de Norbert Dabira. Norbert Dabira avait une fois de plus tenté de faire annuler un élément de cette procédure judiciaire en se prévalant de l'arrêt qui a été rendu en juillet 2005 à Brazzaville, à l'issue d'un procès qui avait été unanimement dénoncé comme un procès mascarade. Et donc, il faisait valoir ce jugement en disant qu'il ne pouvait pas être inculpé, poursuivi en France. Bien, la justice française vient de confirmer qu'il pouvait bien être mis en examen en France et que l'instruction pouvait se poursuivre en France.
Compte tenu de l'importance de cette affaire à Brazzaville, la lumière peut-elle être faite dans cette affaire ?
On l'espère. C'est vrai qu'il y a de nombreux obstacles à ce que cette instruction puisse un jour aboutir à un procès. Mais on l'espère. C'est aujourd'hui le seul espoir de justice pour les victimes. Ils savent très bien que, hormis cette procédure, il n'y aura aucune autre possibilité ailleurs d'obtenir un jour un procès équitable sur cette affaire des disparus du beach de Brazzaville. Alors, il reste beaucoup à accomplir, mais il faut savoir aussi que l'instruction a déjà permis de rassembler un grand nombre de témoignages de parties civiles, de personnes qui interviennent en tant que partie civile dans l'affaire, et puis de témoins aussi qui sont venus témoigner devant la justice française. Et on espère que ces éléments-là pourront un jour aboutir à ce qu'il y ait un procès en France sur cette affaire.
Quel est votre sentiment sur cette affaire des disparus du beach ?
Bien, notre intime conviction, c'est celle des parties civiles de l'AFIDH depuis longtemps. Hein. C'est que ce sont des crimes contre l'humanité qui ont été orchestrés au plus haut niveau du pouvoir et qui ont donné lieu à des centaines de disparitions, à des exécutions extrajudiciaires et à un certain nombre donc, de graves violations des droits de l'homme qui peuvent s'apparenter à des crimes internationaux. On connaît encore une fois les difficultés pour la justice française d'enquêter sur cette affaire, étant donné l'absence totale de coopération des autorités congolaises depuis le démarrage de l'instruction en France. Mais on pense qu'il doit y avoir justice dans cette affaire, que c'est important et que l'impunité ne peut pas perdurer s'agissant d'une affaire aussi grave et qui a donné lieu à des crimes aussi graves.
Maître Clémence Bechtart de la FIDH, jointe à Paris.
Le prix Nobel de littérature a récompensé le romancier Patrick Modiano, le 15e auteur français à recevoir une telle distinction. Selon l'Académie suédoise, l'auteur de 69 ans a été choisi pour cet art de la mémoire de l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Pour une réaction, Idriss Fall a joint à Paris l'écrivain congolais Alain Mamankou.
La réaction en tant qu'écrivain de voir que Patrick Modiano a reçu le prix Nobel, on était tous étonnés puisque nous étions en train de libérer pour le prix de la langue française avec certains membres du prix Goncourt comme les Bernard Pivot et d'autres de l'Académie française. Le prix Nobel, c'est quand même aussi reconnaître un travail de longue haleine, hein, parce que quand on voit que Modiano, qui a commencé à publier depuis les années 60, exactement dans les années en 68, avec son fameux livre « La place de l'étoile », j'avais 2 ans à cette époque, et je suis venu le lire quand j'avais 24, 25 ans en France. C'était d'abord donc une surprise. Ça ne fait pas longtemps que la France avait reçu le prix Nobel avec Le Clésio en 2008. Hein. Donc, c'était un grand étonnement, mais aussi une satisfaction parce qu'il vient de couronner un écrivain qui est toujours resté conséquent avec son univers.
Et vous qui l'avez lu, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans sa manière d'écrire ?
Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est son côté, j'allais dire, d'entomologiste. C'est quelqu'un qui est préoccupé vraiment de l'identité qui est la sienne, qui a été troublée peut-être aussi par la question de l'absence du père et que son père effectivement était mort alors qu'il ne sait même pas où est-ce qu'on l'avait inhumé. Les membres du Nobel ont bien rappelé qu'on le couronnait pour le travail de la mémoire qu'il avait opéré, mais aussi pour sa proximité et même son inclination sur le thème de l'occupation allemande. Que lui-même, il est né juste à la fin de la guerre. Ses parents, ses grands-parents avaient été affectés par ce moment-là. Et puis, il y a aussi le fait que peut-être dans la littérature française, c'est l'écrivain le plus parisien. C'est quelqu'un qui met les adresses dans ses livres. Le dernier de ses livres est intitulé « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier ». C'est l'écrivain qui accompagne le lecteur dans les endroits les plus cachés de Paris pour lui montrer comment l'histoire peut parfois perturber l'univers d'un écrivain.
Et l'écrivain congolais Alain Mabankou.
Et pour terminer, il faut signaler que des chercheurs travaillent à mettre au point des protèges sensibles au toucher et contrôlables par la pensée, Camille Gros-Didier.
Cela fait déjà un certain temps que l'on trouve sur le marché une main artificielle qui ressemble à une vraie main. Les amputés veulent non seulement retrouver leur apparence normale, mais également la sensation de toucher. C'est aussi le but des ingénieurs qui développent des prothèses. Parmi eux, Max Ortiz Catalan, un Mexicain en poste à l'Université de technologie Chalmers à Göteborg, en Suède, qui a aidé à créer un bras artificiel. Certains de ces muscles sont encore là, les cellules nerveuses sont toujours là. Donc, nous pouvons capter ces signaux du cerveau et les utiliser pour dire à la prothèse que faire. Le bras articulé de Catalan, qui peut être contrôlé par le cerveau, a été donné à un chauffeur de camion qui a perdu son bras il y a une décennie. Avant qu'il ne reçoive l'implant, expliquent les chercheurs dans la revue Science Translational Medicine, l'homme parvenait à contrôler son bras plus ou moins bien grâce à des électrodes placées sur sa peau. Mais aujourd'hui, le bras est beaucoup plus fiable. Le patient l'utilise dans sa vie quotidienne et lorsqu'il joue avec ses enfants, fait des choses à domicile et travaille. Donc, au lieu de fonctionner à 50%, il est revenu à la normale et peut porter la prothèse toute la journée. Par ailleurs, Dustin Tyler et ses collègues de la Case Western Reserve University à Cleveland dans l'Ohio décrivent comment ils ont utilisé des électrodes implantées pour stimuler les sensations dans toute une prothèse. Ils ont une main artificielle, mais c'est comme si c'était leur vraie main. Donc, nous appliquons des techniques de stimulation électrique directement aux nerfs qui servent à aller à des capteurs dans une vraie main. En les activant, on leur donne la perception que c'est leur vraie main.
Voilà, c'est l'heure des sports sur la Voix de l'Amérique et on accueille Nicolas Pino. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Bagassi.
Et on parle de sport, mais on parle aussi de l'Ebola qui fait toujours autant parler de lui et ce joueur de football guinéen. L'a appris à ses dépens.
Et oui, Las Bangoura a dû quitter ses coéquipiers du Sili National et rentrer sur Madrid en catastrophe. Ses partenaires du club, le Rayo Vallecano, se sont en effet inquiétés de son départ pour Casablanca, avant d'affronter évidemment le Ghana pour le compte des éliminatoires de la CAN 2015. Interrogé par l'AFP, un porte-parole du Rayo Vallecano a indiqué que le club avait conseillé à Bangoura de rentrer à Madrid en raison de l'émotion générée en Espagne par le premier cas d'Ebola. Et puis on va parler avec vous maintenant des matchs du week-end.
Et donc, troisième journée qui verra s'affronter le Lesotho à l'Angola.
Oui, on va avoir également dans le groupe G les deux leaders qui s'affrontent au stade Léopold Sédar Senghor, le Sénégal qui accueille la Tunisie, l'Égypte elle se déplace au Botswana sans droit à l'erreur après deux défaites lors des deux premiers matchs.
Et enfin tennis, la suite du tournoi de Shanghai.
Le numéro 1 mondial Novak Djokovic a souffert ce jeudi plus de 2 heures pour se qualifier pour les quarts de finale du Masters. Victoire douloureuse en 3-7, 6-3, 4-6, 6-4 contre le Kazakh Mikhail Kukushkin. Futur adversaire de Djokovic en quart, l'Espagnol David Ferrer a réussi une bonne opération en éliminant l'Écossais Andy Murray en 3-7 de 6, 6-1, 6-2.
Voilà, merci Nicolas Pino, c'est tout donc pour les sports.
Et on passe à la musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Lionel Richie veut être sur le prochain album de Daft Punk, Appelez-moi. Dans une récente interview, le chanteur américain révèle qu'il rêverait de collaborer avec le duo français hein, et qu'il a même failli participer à l'enregistrement de Random Access Memories. Ce soir, on écoute Richie dans I'm Not Okay.
I've seen what you're facing. Please don't be alarmed. If you need me, just call me. You're never alone. Hey, I'm barely sleeping, I'm barely eating, until the rain turns in.
Un grand nombre des stars mondiales ne jurent plus que par Thomas Bangalter et Guy Manuel Deomem Cristo, alias le duo casqué le plus célèbre de la planète, Daft Punk.
Ça, tu peux le dire, Morgane. Depuis le carton phénoménal de Get Lucky l'an passé, toute l'industrie musicale rêve de collaborer avec les Français. Ils ont fait exploser la cote de popularité de Pharrell Williams. Pas étonnant que Madonna ait tenté de s'associer à Daft Punk pour son prochain single. C'est désormais au tour de Lionel Richie de courtiser les interprètes de Technologic.
Lionel Richie dans I'm Not Okay. Merci Roger.
De rien Morgan, see you later.
Et je vous rappelle que Roger Muntou, vous pouvez le retrouver tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
Until your vision becomes clearer, I ain't sleeping, I'm not eating, until the rain turns into change. My heart, your heart, my love, your love, my love.
Not okay unless you're
temps de se séparer puisque le monde aujourd'hui s'achève. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïma et Issia Kaba ont dirigé la mise en œuvre. Un grand merci à toute la rédaction. Au micro, c'était Bagassi Koura
et Morgane Guiriec.
Voilà, on laisse la place à Washington Forum dans quelques secondes avec Jacques Aristide et on se retrouve dans une demi-heure.